Je m'appelle Sarah Normandin et je suis nutritionniste depuis plusieurs années. Ma passion, c'est d'apprendre à retrouver le plaisir de manger, de te montrer que ça peut être simple, mais surtout de t'aider à faire la paix avec ton corps et avec les aliments. Dans le podcast « Le maudit poids », prépare-toi à être surpris, à peut-être même être choqué par ce que tu vas entendre, mais fais-moi confiance. Le chemin vers la libération en vaut vraiment la peine. Le podcast, puis tu te dis « Ah, oh, wow, ça me parle. » Tu as envie de travailler avec moi, tu as envie que je t'accompagne à mieux comprendre ton corps, puis ben à savoir comment il fonctionne, puis retrouver un discours sain avec lui. Je t'invite sur mon site internet saranutritionniste.com. Tu vas avoir un onglet où tu vas pouvoir prendre directement ton rendez-vous virtuel avec moi qui est disponible partout au Québec. Et pour les gens de la région de Shawinigan, il y a possibilité de me rencontrer en personne, mais pour ça, il faut me contacter. Tu ne trouves pas la place exactement où tu as des questions pour moi avant la rencontre, avant de prendre un rendez-vous? Bien, viens me parler sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Écris-moi un courriel info@saranutritionniste.com. Ça va me faire plaisir de te répondre. Merci. Que tu entends sur le podcast Le maudit poids, tu te dis que ces messages-là, il n'y a peut-être pas juste toi qui bénéficierais des ententes. Tu penses que ton organisme, ton école ou ton milieu de travail serait peut-être intéressé à ce que je vienne t'en parler de façon virtuelle ou même en présentiel partout au Québec? Visite mon site internet saranormandinnutritionniste.com. Tu peux aussi m'écrire sur mes réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, ou m'envoyer un courriel info@saranormandinnutritionniste.com. Ça va me faire plaisir de répondre à tes questions. Puis en passant, j'aime bien, bien ça, aller parler du maudit poids. Salut tout le monde! Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Le maudit poids. Aujourd'hui, trois filles pour le prix d'un. Je suis avec Audrey Bilo et Marie-Michelle Gazal. Salut les filles!
Salut! Allô.
Comment ça va?
Ça va bien, toi?
Ça va vous? Très bien. Vous? Ouais, ouais, vous. Je pensais que tu me voyais.
Non, vous. OK.
Ouais, ça va. Très bien. Et merci. Puis là, tu sais, je nomme vos noms, mais dans le fond, on vous connaît, Audrey, sous le nom de la maman infirmière, puis Marie-Michelle, sous le journal d'une pharmacienne, sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que je vous ai découvert. Puis là, aujourd'hui, je suis tellement contente que vous ayez accepté mon invitation. Je suis tombée sur des publications où vous dénonciez un petit peu la promotion de produits, de médications, de produits naturels sur, par des influenceurs, finalement. Puis les conséquences que ça peut avoir, fait que je nous résume ça bien, bien sec, là, mais on va jaser beaucoup de ça aujourd'hui. C'est venu me chercher parce que je te dirais que moi, c'est un de mes combats quotidiens. La culture des diètes, la culture des régimes, ça vient avec beaucoup de produits moyens amaigrissants qu'on va retrouver un peu partout, et des influenceurs et des vendeurs qui n'ont pas nécessairement des formations professionnelles. Donc, j'étais bien allumée par vos publications. Mais avant d'aller là, j'aimerais ça que les gens vous connaissent, s'ils ne vous connaissent pas. Fait que je commencerai avec toi, Audrey. Est-ce que tu peux nous, la maman infirmière, nous parler de ton parcours?
Un peu, Marie, vas-y, je pense que tu as tellement de choses à faire. Mais
moi, je suis allée, et toi, tu étais en haut dans l'image, je suis allée là, mais on peut faire l'inverse.
Mais non, vas-y, Audrey, là.
Donc, comme tu l'as si bien dit, j'espère que c'est pas trop fort pour le volume, ceux qui l'écouteront en voiture. Donc, je m'appelle Audrey Bio, je suis infirmière clinicienne, j'ai gradué de l'Université de Montréal en 2016, je crois. Oui, je pense que c'est ça, 2015-2016 dans ce temps-là. Hein. Pourquoi je n'ai plus de mémoire, c'est parce que je suis maman de trois enfants. Donc, on dit souvent, quand on accouche de son cerveau. Donc, j'ai accouché trois fois de mon cerveau. Donc, j'en perds des bouts. Mais je suis quand même intelligente et je suis quand même une bonne infirmière. Donc, moi, j'ai travaillé dans plusieurs domaines. J'ai travaillé dans la médecine, j'ai travaillé dans la psychiatrie, court terme, long séjour également. J'ai travaillé au soutien à domicile. Spécialisée après dans les RPA, donc les résidences pour personnes âgées. J'ai été de jour et de soir. De soir au soutien à domicile, on ne voit pas la même chose que de jour. Et là, en ce moment, je suis infirmière scolaire, donc j'ai des écoles primaires. Et quand on fait infirmière scolaire, on fait aussi de la clinique jeunesse, fait que, ce qui passe le dépistage, les contraceptions, etc. Fait que ça, c'est ce qu'on fait. Et dans un congé de maternité où je n'avais rien à faire pendant une nuit... où je ne dormais pas. Je trouvais que, je ne sais pas, il me manquait un petit peu, je voulais stimuler un peu plus mon cerveau. je me suis dit, ah, je vais créer ça. Le nom est venu de par lui-même parce que je suis maman et infirmière, donc la maman infirmière, tout simplement. Et je me suis dit, ah, je vais faire des petites capsules. En même temps, ça va me permettre de mettre à jour avant de reprendre le travail, etc. Finalement, de fil en aiguille, ça a explosé, littéralement. Je m'attendais vraiment pas à ça. Mais je vois qu'il y a un énorme besoin au niveau de la population pour l'éducation, la promotion, tout ce qui est prévention de la santé. Je sais qu'on va en parler, que Marie et moi, on a à cœur ce sujet-là. Je le dis très souvent, je suis une fille de première ligne. La base pour être en santé, ça se passe au niveau de la prévention et de la promotion. Donc, c'est ça, la maman infirmière, finalement, c'est... j'ai toujours appelé ça comme une espèce de plateforme pour les parents, créée avec les parents, parce que souvent, je sonde la communauté, là, ça sonne influenceur, mais oui, la communauté, savoir un petit peu, qu'est-ce que les parents veulent aborder comme sujet, c'est quoi là, leur tracas du quotidien, qu'est-ce qu'ils vivent, pour qu'après moi, je le résume, puis en fait, je le vulgarise. Fait que c'est vraiment un travail de vulgarisation scientifique. Donc, je pense que c'est à peu près ça qui me résume pour mon parcours. Je laisse la parole à Marie.
Merci!
Tu dis que j'avais plein de choses à dire, mais toi aussi, là, t'as plein de choses à dire.
Ah non, mais t'en as plein. Tu me dis toujours, il y a toujours plein de choses que tu fais. Je me dis, mon Dieu, mais il y a juste 24 heures dans une journée, c'est adorable.
je dors très bien, mais moi aussi, je me demande où le temps file et où je pige ce temps-là, mais honnêtement, je dors très bien. Je suis vraiment quelqu'un qui pose sa tête sur l'oreiller, puis pouf, je me suis endormie tout de suite, fait une chance. Mais de mon côté, j'ai aussi gradué de l'Université de Montréal en 2016, donc comme toi, Audrey. Et quand j'ai gradué, en fait, j'ai commencé à travailler en pharmacie communautaire. Donc, la pharmacie communautaire, pour ceux qui ne savent pas, là, le terme qu'on utilise, c'est comme la pharmacie de quartier, là, les pharmacies au coin de la rue que vous allez chercher vos médicaments. C'est ce qu'on appelle la pharmacie communautaire. Et quelques années après, j'ai commencé à faire quelques heures aussi en groupe de médecine familiale, donc GMF. Ouais. Mm-hmm. Et donc, il y a des postes de plus en plus qui se sont ouverts dans des GMF subventionnés par le gouvernement pour avoir des pharmaciens. Donc, j'ai commencé, c'est ça, il y a peut-être 4 ans en GMF. Je fais encore une demi-journée par semaine en GMF. Et avec le temps, ben j'ai transitionné un petit peu au lieu de pratiquer à temps plein dans la pharmacie communautaire. J'ai commencé à travailler dans des sièges sociaux de Bannière en tant que consultante pour travailler sur des projets spécifiques pour améliorer la pratique des pharmaciens et des pharmaciennes des réseaux pour assurer que, bon, avec le temps, la pratique évolue, mais on veut s'assurer que les pharmaciens soient bien outillés pour leur pratique quotidienne. Donc, je travaille sur des petits projets ponctuels par-ci, par-là. Puis, à travers tout ça, un peu comme Audrey, à un moment donné, je me suis comme lancée dans l'aventure des réseaux sociaux. En fait, ça a comme pas mal commencé par de la frustration un petit peu de réaliser sur le terrain que finalement, personne ne sait ce que ça fout des pharmaciens. Puis non, ça ne compte pas des pilules. Puis ça étudie pas 4 ans et n'obtient pas un doctorat pour compter des pilules ou coller des étiquettes sur des boîtes. Je vous le jure, guys, c'est pas ça qu'on fait. Donc, j'en parlais beaucoup avec mon chum. Tu sais, je rentrais le soir, puis j'étais comme, oh, mes patients savent pas ce que je fais. Puis ça me démoralisait. Puis il m'a dit, mais pourquoi tu changes pas un petit peu la narrative et tu te fais pas quelque chose de constructif à partir de cette frustration-là? Fait que voilà, je canalise, évidemment, c'est pas juste la frustration, là, ça a commencé comme ça, mais après, c'est devenu vraiment une belle aventure de vulgarisation scientifique, puis surtout de sensibilisation au rôle des pharmaciens. Fait que je vais pas parler de « voici ce que tel médicament fait pour vous », c'est vraiment toujours dans le but d'expliquer à travers mes anecdotes, mes quiz, peu importe, c'est toujours dans le but d'exprimer qu'est-ce que le pharmacien ou la pharmacienne peut faire pour vous dans cette situation-là. Fait que c'est toujours dans le but d'éduquer la population, parce que plus ils vont être éduqués, bien mieux ils vont savoir se tourner vers la première ligne, encore une fois, au lieu d'aller à l'urgence chez leur médecin, alors qu'il y a tellement d'autres options dans plusieurs situations, pas tout le temps, mais il y a beaucoup de situations qui peuvent se régler par des interventions en première ligne. Fait que voilà, c'est le but de mon beau petit bébé blog.
Moi, je trouve ça savoureux. J'ai été longtemps technicienne en pharmacie pendant mes études. Fait que j'ai vraiment vécu ce que tu nommes souvent dans les situations, puis je me mords de rire. Je meurs de rire à chaque fois. Je suis comme, oh mon Dieu, c'est tellement écœurant. Mais c'est vrai que les gens ne le savent pas. Fait que oui, c'est le fun. Ça fait du bien d'expliquer, de démystifier, de vulgariser avec une touche scientifique un peu poignante des fois. Comique, c'est super.
C'est surtout qu'il n'y en a pas beaucoup, en fait, de pharmaciens non plus sur les réseaux sociaux. Hein. Il y a beaucoup, mettons, on va parler de doula, de d'ostéopathe, des choses comme ça, mais de pharmaciens. En tout cas, moi, c'est pas mal la seule que je connais, là.
Non, c'est vrai, on n'est pas beaucoup, puis on se connaît toutes, ceux qui le font maintenant, on se connaît toutes parce qu'on essaie de s'entraider, on s'encourage, puis on essaie aussi de former la relève, d'intéresser la relève à comme prendre la parole dans les médias parce que c'est l'avenir, je veux dire, c'est la plateforme de communication que les générations, nos générations et les prochaines générations utilisent ou utiliseront majoritairement. Fait qu'on le voit, la pertinence de ça. Tu sais, on le voit, moi aussi, tu sais, ça n'a pas explosé si rapidement qu'Audrey, mais moi aussi, en l'espace d'un an ou deux, je me suis dit, mon Dieu, OK, ça déboule, là. Tu sais, fait que clairement, les gens sont intéressés. C'est juste qu'il faut savoir comment bien vulgariser l'information, comment véhiculer un message en gardant l'intérêt des gens. Puis, tu sais, on le sait aussi à l'époque où, à l'ère où les médias donnent de l'information super rapidement, puis tout est très short and sweet, puis tout. C'est difficile des fois d'aller éduquer avec des longs textes, puis vraiment des grosses publications. Fait que de pouvoir venir chercher l'attention des gens un peu autrement, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment ça qui fait que, tu sais, ça garde ça intéressant pour nous qui créent du contenu aussi de sensibilisation puis d'éducation. C'est comme un petit challenge de, OK, comment je peux garder l'attention de mes lecteurs, lectrices avec le prochain sujet, tu sais.
Tellement, puis c'est tout qu'un art, puis tu sais, t'as marqué un super bon point. On est vraiment bien formés au niveau, tu sais, vulgarisation, communication avec nos patients parce qu'on est tous dans des professions où on a beaucoup d'enseignements aux patients à faire. On est formés beaucoup sur être des bons scientifiques, être des bons professionnels, mais on n'a aucune formation sur le marketing, aucune. Puis on n'est pas tant présent dans les réseaux sociaux, en général, les professionnels de la santé. Quand on regarde, je pense, j'ai pas de statistiques, mais j'aimerais ça en avoir le pourcentage de professionnels de la santé versus le pourcentage d'influenceurs, exemple, qui vont parler de santé en général, ou de gens qui ont fait des formations qui ne sont pas nécessairement reconnues, qui vont parler de santé en général. On a vraiment une place à prendre, là, qui est...
Ouais. C'est pas facile, là. C'est pas filmé parce que je fais des petits
visages. Moi, je ris en regardant la face d'Audrey qui twitch un peu, là.
je pèse mes mots, mais c'est vraiment quelque chose qui est assez révoltant puis problématique, puis c'est ça que j'ai trouvé écœurant que vous soyez sortis là-dessus. T'sais, j'ai vraiment aimé ça, comment vous avez parlé du marketing d'influence pour les médicaments, pour les vitamines, pour les suppléments, pour toutes d'autres sortes de produits qui peuvent se vendre, autant sous prescription que non sous prescription. Puis c'est le cas, c'est votre cas, c'est le cas de mon ordre aussi. On n'a pas le droit, par notre ordre professionnel, on peut se faire kick-out de notre ordre professionnel si on s'associe à des produits, puis si on fait de la promotion de produits, alors que l'influenceur a le droit, lui, de le faire. Mais il n'est aucunement outillé pour le faire. Fait que moi, ça me fait capoter. Puis je veux dire, c'est, comme je disais, c'est mon quotidien parce que les gens m'arrivent, là, c'est rendu que les gens m'arrivent puis me disent « Hey, sérieusement, je m'attendais que tu allais me prescrire des suppléments puis des vitamines parce que j'ai l'impression que c'est que ça maintenant puis que c'est ça la nouvelle façon de bien s'alimenter tellement que c'est omniprésent. » C'est problématique, là!
Je sais, puis t'en parles, puis une chance que c'est pas filmé parce que je fais tellement de grimaces, et encore là, je me contiens pour pas trop en faire, mais il y a peu de professionnels, et au nombre de professionnels qu'on est sur les réseaux sociaux, c'est difficile de se faire une place. Et pourquoi les gens, malheureusement, quelqu'un qui va avoir 300 000 abonnés, comparativement à un professionnel qui va faire du travail de qualité, qui a fait ses recherches, que tu sais, tout est fondé, qui va avoir 1000 abonnés, bien, la personne va avoir tendance à avoir plus confiance entre la personne qui a 300 000 abonnés. Et après, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça fait que les professionnels de la santé, on parle de la crédibilité aussi.
Ouais.
Hein?
Ouais.
Pourquoi j'ai pas eu de supplément? Pourquoi? Pourtant, tu es nutritionniste. Et le nombre de jeunes, des fois, qui nous disent en clinique jeunesse, ouais, mais moi, j'ai vu ça sur TikTok.
Oui, oh mon Dieu.
TikTok, mais oui. Google, mais oui. Puis moi j'en ai, là, j'ai dit, hey, TikTok, Google, j'ai dit, c'est tu sais, ça marche pas. Oublie ça, c'est ça n'a pas rapport. On efface là, ce que tu comprends, ce que tu as vu. Là. Idéalement, c'est un professionnel de la santé. Puis, tu sais, c'est pas pour rien là, qu'on fait des études, puis, tu sais, qu'on travaille fort pour ça. On a un bac, maîtrise, doctorat, peu importe. Mais c'est dur comme professionnel de la santé de percer sur les réseaux sociaux. Puis, je sais pas, toi, Marie, comment tu l'as perçu, parce que moi, tu es une des seules pharmaciennes. Maintenant, j'en connais une autre qui fait aussi de la vulgarisation, mais j'ai trouvé ça dur comme professionnel de la santé de percer sur les réseaux sociaux au début, de vouloir attirer les gens, de vouloir, comme tu disais, susciter l'intérêt pour que la personne lise le carrousel au complet, ouais, pour qu'elle comprenne pourquoi. Puis après, quand on s'est embarqué, malheureusement, je le dis entre guillemets, la guerre entre les influenceurs et les professionnels de la santé, il y a beaucoup de professionnels de la santé qui ont mis le doigt dessus, qui disent « ça n'a pas d'allure », mais en même temps, nous, ce qu'on veut, c'est essayer d'avoir un petit peu plus d'abonnés pour pouvoir toucher le plus de monde possible.
Oui.
Mais si on parle trop fort, ben là, les influenceurs qui ont 300, 500 000 peuvent nous écraser. Fait que, tu sais, c'est comme...
Ouais.
Ça c'est pourrait délicat. Être sain, c'est délicat, mais ça pourrait être sain que les influenceurs... Tu sais, j'en ai tellement à dire. Je sais que c'est le sujet d'aujourd'hui, mais c'est un sujet qui est tellement délicat qu'il faut... Et je trouve ça dommage qu'on doit dire qu'on doit peser nos mots.
Ouais,
c'est nous qui avons les connaissances, les compétences. Ouais.
Oui, puis après coup, c'est aussi nous qui avons un code de déontologie puis une responsabilité professionnelle. C'est ça là, le problème aussi, c'est que nous, on a l'obligation déontologique de donner de l'information qui est adéquate, de donner l'information aux patients et patientes pour prendre une décision éclairée et libre. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire, qu'on doit faire en continu comme travail. Là. Dès qu'il y a de l'information nouvelle qui sort, c'est nous autres qui devons la transmettre. C'est nous autres qui devons s'assurer qu'elle est bien vulgarisée. Puis, une publication d'un créateur de contenu qui date d'il y a 3-4 mois, qui est déjà désuète parce qu'il y a des nouvelles données qui sont sorties ou des études qui ont prouvé que, ben, tu sais, finalement, les multivitamines, ah ouais, c'est peut-être pas la meilleure chose pour telle raison ou qu'on en a peut-être pas besoin. Ben, c'est qui va aller corriger ça, tu sais? C'est le discours du professionnel de la santé, tu sais? Fait que c'est ça. C'est très délicat. Puis, c'est sûr qu'on veut pas s'empêcher de parler juste parce que le statut social de quelqu'un peut nous amener quelque part, mais en même temps, c'est difficile de le faire. C'est difficile. Je veux dire, moi, je vais être franche avec vous, là, tu sais, pour ceux qui ont suivi un petit peu la saga de quand je me suis pognée avec une influenceuse. on m'a reproché parce que je veux pas faire qui a raison, qui a pas raison. C'est pas ça le but. Je veux juste vous exprimer un petit peu pourquoi c'est difficile. J'ai été publiquement mettre un commentaire sur sa publication qui est publique d'une publicité de médicaments, puis en disant tout simplement que je voulais inciter les gens à aller consulter leur professionnel de la santé avant, puis tout ça. Puis moi, j'ai été parler dans mes propres stories un petit peu de pourquoi cette publicité-là, je la trouvais problématique en tant que professionnel de la santé, tu sais. Puis après ça, ben je me suis fait un peu reprocher d'avoir mis des captures d'écran, des commentaires, puis des commentaires des gens, même si j'avais pris le temps de barrer le nom des personnes qui ont mis des commentaires qui sont soi-disant publics.
C'est
ça, exactement, public. Puis de me faire dire, ben tu sais, c'est incité à l'intimidation, on s'attaque aux personnes précisément. On aurait pu aborder le problème sans parler des commentaires des gens. Je suis comme, mais comment vous voulez que je fasse avancer la discussion puis que j'éduque les gens si je montre pas d'exemple concret? Tu sais, pour moi, c'est comme ça que je montre aux gens que ça existe, ces publicités-là, que c'est problématique, que ces commentaires-là, je les trouve problématiques pour X raisons, puis de démontrer mon raisonnement scientifique aussi, puis de montrer comment je réponds à ces commentaires-là, parce que je suis pas la seule pharmacienne qui voit ça puis qui trouve ça problématique, mais les gens ont peur de dénoncer ça. Ils ont peur. Moi, là, avec toute cette saga-là, je me suis fait envoyer des centaines de DM, puis de me faire dire « Oh mon Dieu, regarde telle pub. Oh mon Dieu, regarde, il y en a une autre. Oh mon Dieu, regarde, il y en a une qui a mis ça. J'ai écrit en DM, mais j'ai trop peur de la ramasser. Je pense que j'ai été trop gentille, elle m'a pas lu. Ou « Ah, oh, je sais pas comment l'aborder. J'ai peur de me faire écraser. » Tu sais, honnêtement, là, puis encore une fois, je dis pas que j'ai fait ça à 100% comme une championne, mais moi, je trouvais que je l'avais fait dans le respect, et malgré ça, j'ai quand même attiré, tu sais, des propos négatifs et tout. Fait que c'est dur de volontairement aller te mettre dans une position où est-ce que tu vas probablement te faire lancer des roches pour avoir soulevé une problématique qui est dans ton obligation de soulever dans ton code déontologique. Tu sais, fait que je comprends un peu les gens qui veulent pas le faire parce que moi-même, je le fais, mais je trouve ça difficile. Puis les journées après, j'ai mal filé, puis j'ai trouvé ça. C'est ça.
Oui. Mon Dieu, je te comprends tellement. Tu sais, il y a beaucoup de mes collègues qui l'ont vécu. Puis tu sais, c'est drôle parce que tu parles d'intimidation que tu t'es fait reprocher, mais ce que les gens font, c'est l'intimidation dans ces cas-là. Je l'ai essayé, moi aussi. Oui, des fois, ça m'arrive de dénoncer, puis j'essaie de trouver un équilibre là-dedans parce que je veux pas tomber juste dans ça, mais moi aussi, il y a plein de monde qui m'envoie des choses comme ça qui ont pas d'allure. Je me suis attaquée sur TikTok là, à un, je ne l'appellerais pas professionnel de la santé, parce que pour moi, c'est pas ça un professionnel de la santé, là, qui n'a pas de code de déontologie de toute façon, puis qui est très, très, très populaire. Puis la vague de haine que j'ai reçue, là, j'en ai pas dormi pendant une fin de semaine complète, là, en avoir, tu sais, c'est rough, là, faut vouloir, là. Mais en même temps, c'est comme, mais je fais juste ça pour éduquer puis sensibiliser, fait que c'est comme on le fait comment d'abord, sinon? Tu sais, si on peut pas toucher à cette façon-là, je comprends qu'il faut faire aussi... tu vois, il y a des professionnels qui vont dire « ben moi, je suis plus pour l'éducation positive, fait que tu sais, comment développer un œil critique. » Oui, ça oui, mais je pense qu'il faut avoir un balance entre les deux aussi, parce que, tu sais, si tu sais pas, tu n'as pas d'exemple, c'est dur à concrétiser puis à comprendre, puis de comprendre les conséquences de ça aussi, fait que merci de le faire. C'est encourageant de voir qu'il y a des gens qui le font aussi.
Mais ça fait plaisir, mais tu sais, c'est un peu ça ce qui est arrivé, c'est que après avoir donné deux très bons exemples, ben après ça, ben je me suis dit OK, là je prends une pause là de parce que parce que je me suis fait dire que tu sais, j'étais partie à la chasse aux sorcières, hein, Audrey.
Ah ben oui. Ah ben oui, évidemment.
Je me suis dit OK, ben vous voulez que je sensibilise mon public sans parler de vous? Parfait, je vais faire ça. Et là, j'ai fait une série de publications qui s'adressaient uniquement aux consommateurs et aux gens qui voient ces pubs-là passer. Puis, je veux dire, moi, je trouve que les deux, c'est correct. Je trouve que les deux façons de sensibiliser, c'est correct. Mais j'ai essayé cette deuxième méthode-là par la suite. Puis, parce qu'il y avait un précédent, parce qu'il y avait un exemple qu'on a abordé ensemble, je suis sûre que ces publications-là ont eu des impacts positif par la suite,
ben
parce
oui.
que les gens avaient quelque chose sur laquelle se baser pour faire l'analyse des
exactement.
Et puis de voir la problématique. Puis honnêtement, tu sais, je veux vraiment pas mettre tous les créateurs de contenu dans le même bateau, parce que il y en a qui m'ont écrit après, il y en a deux, trois qui m'ont écrit pour me dire « Hey, tu sais, il y en a qui m'ont dit qu'ils ont toujours été mal à l'aise avec ce concept-là, il y en a qui m'ont dit « J'en ai déjà fait des publicités pour des médicaments, puis tu m'as fait réfléchir, puis maintenant je comprends pourquoi c'est problématique. » Fait que
mais oui.
La discussion, elle avance, là. T'sais, on le voit que ça avance, pas avec tout le monde, mais c'est un début.
On a semé une graine, je pense. Puis tu sais, on le dit bien que... Moi, je suis un peu comme un taureau, là. Je fonce dans le tas, là, puis j'ai des œillères. Puis si t'aimes pas ça, t'aimes pas ça. Si tu m'aimes pas, tu m'aimes pas. Moi, que t'es 300 000, 500 000, 3 millions, si j'ai quelque chose à te dire, je vais t'écrire. Si tu me lis, tu me lis. Si tu me lis pas, tu me lis pas. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, moi aussi, comme Marie-Michel, là, il commençait à avoir beaucoup de messages privés de « t'as-tu vu la vidéo? » Puis on recevait les mêmes, on s'écrivait « hey, t'as-tu vu ça? »
Ah ouais, hein?
Mm-hmm. J'étais comme « ouais, j'étais assez outrée. » Là, moi, évidemment, j'avais suivi la saga de mon amie. Hein.
Bah oui! Ça a pas d'amour. Bah oui!
Tu sais, à un moment donné, je me suis dit « OK, il faut qu'on redescende. » Je veux dire, la réalité n'est pas sur les réseaux sociaux. Par ouais. contre, l'impact que ça va avoir un impact dans la réalité des gens. Un influenceur souvent veut se déresponsabiliser. Il dit qu'il ne fait pas la promotion parce qu'il ne dit pas, puis là, je mets des guillemets grasses, je ne fais pas la promotion d'un produit parce que je n'ai pas dit « je vous recommande ce produit-là mm-hmm. ». J'ai quelques réticences à ça parce que, oui, bon là, ça a comme changé pour le mot « créateur de contenu », mais... La job, en fait, en tant que telle, c'est vraiment influencer les gens. Parce que toi, oui, on te paye en fonction du nombre d'abonnés que tu as, mais aussi en nombre... Enfin, s'il y a un lien à cliquer et que les gens doivent acheter quoi que ce soit ou acheter un produit ou le médicament, bien là, ils vont le voir, là, ces compagnies pharmaceutiques-là. Parce que moi, j'ai été approchée par des compagnies pharmaceutiques qui voulaient que je fasse la promotion de peu importe c'était quoi, et j'ai refusé. Non seulement c'est c'est écrit dans mon code de déonto, mais il y a tellement un malaise même en tant que professionnel, on ne peut pas prendre part sur n'importe quoi qui a un impact direct sur la santé. Et un influenceur qui dit « mais je ne promue, hein, j'ai toujours la misère avec ce verbe-là.
» Promouvoie.
Promouvoie. On va y arriver à trois. Vous ne faites pas la publicité de ce produit-là. Mais écoute, la job reste qu'il faut quand même que tu influences les gens. Donc, c'est pas parce que tu changes tes mots, c'est pas parce que tu vas dire au début « consultez votre professionnel à la santé » puis que tu leur dis à la fin, ben le message reste quand même que si tu dis que ce produit-là a été miracle pour toi. Et tiens, c'est drôle parce que hier j'ai relu mon code de déontologie et c'est vraiment écrit noir sur blanc. En tout cas, dans le mien, dans l'ordre des infirmières, on peut faire aucune promotion de projet, pas de projet, mais de produits miracles sur la santé. Et on s'entend que des produits miracles, il y en a énormément sur les réseaux sociaux qui circulent en ce moment. C'est sûr que s'il y a une pilule qui fait perdre comme 40 livres, peut-être que j'aurais tendance à l'essayer si j'avais pas de jugement critique, mais tu sais, quand on y repense, ben, tu sais, tu te dis, je pense que c'est plus que ça, hein. Derrière ça, il y a des bonnes habitudes de vie à avoir, il y a ci, il y a ça. Donc oui, on peut, entre guillemets, grâce, s'attaquer aux influenceurs, puis encore là, les créateurs de contenu, peu importe comment on les appelle, parce que nous aussi, finalement, on est créatrices de contenu.
Ouais.
Nous aussi, on est influenceuses malgré nous, parce qu'on veut influencer les gens, mais c'est pas sur des produits ou quoi que ce soit, c'est plus sur les renseignes. On veut qu'il y ait un jugement critique. Et quand j'en parlais à Marie, des fois, je lui disais, OK, là, ça n'a pas d'allure non plus l'ampleur que ça a pris. Même que moi, je faisais plus rire qu'autre chose. C'est sûr que j'étais pas à sa place, mais j'étais comme, tu sais, je revenais juste pas. Je me suis dit, voyons, c'est bien de l'enfantillage pour ça. Là, je veux dire, tu as dit un commentaire, je l'ai lu, c'était très bienveillant, c'était dans le respect, tout comme Marie-Michel sait très bien le faire. Mais après, de s'attaquer comme ça, non. Essaye de réfléchir dans ton coin. Si tu n'y arrives pas, OK, bon, parfait. Mais là, c'est pour ça qu'on s'est dit, ben, peut-être que finalement, sensibiliser le public, c'est peut-être ça qu'il faut plus faire. Peut-être qu'eux sont plus ouverts à écouter des conseils, à écouter et à savoir comment juger si ce qu'on voit sur TikTok, c'est bon. Si un rap sur le ventre qu'on voit sur TikTok, ça va enlever la cellulite en 30 heures. Là, je suis comme, tu sais, il y a tellement de choses qui circulent. Là. Je pense que c'est pour ça, puis c'est dur, parce que les réseaux sociaux aussi, tu sais, les gens qui se cachent derrière leur écran, les gens, des fois, soit comme, tu sais, Marie-Michel le disait, sont plus timides, ils n'osent pas écrire à des influenceurs, mais c'est drôle, parce que des fois, je me fais reconnaître comme la maman infirmière dans mes écoles où je travaille, puis les gens m'écrivent par après, « Ah, c'était toi la maman infirmière, j'osais pas venir te voir. » Puis je dis, tu sais, la personne, peu importe le nombre d'abonnés qu'elle a, là, ça reste une personne qui fait comme tout le monde, qui va aux toilettes tous les jours, tu sais, qui fait comme les choses simples de la vie. Fait que, tu sais, faut pas que les gens aient peur d'aller leur écrire ou quoi que ce soit, peu importe le nombre d'abonnés. Tu sais, puis ça, c'est un travail de dur à l'aine. C'est long à faire. Je pense que Marie Dulle l'a bien dit aussi dans les entrevues radio, vraiment aussi, c'était quoi l'impact là, de tout ça, c'est surtout ça qu'on veut faire prendre conscience aux influenceurs. Vous savez, je suis congestionnée. Créateurs de contenu, que oui, bon, nous, selon notre code de déonto, on n'a pas le droit, mais c'est surtout l'impact qu'ils peuvent avoir dans la vie des gens.
Puis c'est parce qu'il y a une raison du pourquoi, là, on n'a pas le droit, là. C'est ça aussi.
Exactement. Puis souvent, tu sais, Marie, elle va sûrement me relancer là-dessus, mais les gens banalisent énormément les médicaments en vente libre.
Mais oui, ben oh mon Dieu, juste en vitamines, en minéraux, juste ça, c'est comme, c'est naturel, fait qu'il n'y a pas de danger. Non. Puis je vais juste prendre une petite parenthèse, parce que moi, je trouve que c'est une grosse question d'éthique, tout ça, de dire, je suis un influenceur, je parle d'un produit pour faire de l'argent, pour influencer les gens, mais je me déresponsabilise avec ça. Je trouve que c'est ça. C'est une grosse question d'éthique, puis c'est pour ça, entre autres, que les professionnels, on ne peut pas le faire, parce qu'on ne peut pas être reconnu comme un professionnel. On va influencer la personne si on la pousse vers une marque ou un produit, même si on met une phrase avant ou après, puis c'est pour ça qu'on n'a pas le droit. Il y a comme une raison qui est très logique derrière, puis très réfléchie. Mais pourquoi ça ne s'extensionne pas à plus loin que ça? Puis moi, ça me fait capoter parce qu'on les nomme, on l'a nommé tantôt, tu sais, TikTok, Instagram, Facebook et compagnie. Il y en a beaucoup de ça. Puis TikTok, c'est les jeunes. Tu sais, c'est nos jeunes adolescents qui ne savent pas c'est quoi un professionnel de la santé. Tu ne sais pas, à cet âge-là, ça fait quoi un professionnel de la santé? C'est quoi la différence avec un influenceur? Moi, lui, il est populaire, il est hot, je vais écouter ce qu'il a à me dire, il est bien plus proche de ma réalité, tu sais, dans le fond, c'est comme ça que tu le vois à cet âge-là, tu le conceptualises pas, puis je pousse au plus loin. Il y a de la population générale qui ne sait pas c'est quoi non plus la différence avec un professionnel de la santé. OK, un bac, mais tu sais, moi, j'ai des gens qui pensent encore qu'on est commandité par les producteurs laitiers. Là, j'ai jamais eu mon voyage là, en passant, là, les producteurs laitiers. Mais il y a encore ça qui est là, tu sais. Puis il y a beaucoup de bashing qui se fait sur ma profession. Puis je me dis, hey, c'est fou, là, tu sais, nous, on a de la misère, mais. Puis il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Puis de l'autre côté, le revers de la médaille, c'est qu'il y a plein de monde qui peuvent dire un peu n'importe quoi. C'est sûr que les gens sont mêlés, mais c'est là que c'est troublant. Puis c'est là que ça devient presque un enjeu de santé publique de dire, OK, on est dans un monde de désinformation, mais de mésinformation aussi. Puis je pense que, tu sais, nos trois professions, c'est des choses qu'on vit énormément. Fait que oui, je trouve que c'est une problématique qui, pour moi, qui est super importante à discuter, là.
Puis tu l'as dit, c'est un enjeu de santé publique. C'est vraiment ça, là. C'est un enjeu de santé publique. Tu sais, tantôt, quand on se présentait, on disait que les trois, on était des filles de première ligne, que c'est important pour nous, la base de la santé, ça s'en va dans la promotion, prévention. Le gouvernement devrait peut-être se pencher là-dessus. Tu sais, oui, on parle de l'hygiène des mains, que c'est un bon moyen de prévention pour les maladies. Oui, c'est vraiment bon, mais il y a tellement de choses qui circulent sur les réseaux sociaux. Là, je suis allée donner, tu sais, aujourd'hui, des ateliers d'éducation à la sexualité. Les gens me disaient, j'ai vu ça sur TikTok. J'étais comme, oublie ça, TikTok. Là, c'est... Tu peux regarder des vidéos drôles, mais tout ce qui est qui a rapport à la sexualité, c'est pas la réalité non plus. Puis c'est vraiment essayer de ramener ça aussi qui est difficile, hein, faire la différence pour les jeunes du monde virtuel à le monde réel. Ça aussi, c'est pas facile, là.
Puis je pense que quand on parle, c'est absolument un enjeu de santé publique. Puis au niveau éthique, tu sais, Sarah, tu disais que comment ça va pas plus loin si nous, tu sais, c'est vraiment éthiquement incorrect de promouvoir certaines choses. Pourquoi les autres gens qui ont même pas de profession pourraient en parler? Mais tu sais, moi, je veux pas que les gens pensent que je trouve qu'il y a un problème éthique uniquement avec les créateurs de contenu. Moi, les compagnies pharmaceutiques, là, qui volontairement utilisent ces réseaux-là, puis vont dans les zones grises un peu de, ben, un professionnel de la santé peut pas en parler, mais n'importe qui d'autre peut. Tu sais, excusez, pardon, là, c'est quoi, là, moralement, qui vous fait dormir, là? Vous dormez, là, vous autres, là, en utilisant ces techniques-là? Moi, je dormirais pas, là. Moi, je...
Attends, Marie-Michelle, t'es en train de me dire que t'es pas payée par les compagnies pharmaceutiques?
Non.
Le plus gros mythe qui circule. Non, ça, je l'ai tellement entendu souvent, là.
Big Pharma me contrôle.
Au début, on m'avait dit, hey, comme la maman infirmière, tu vas pouvoir t'associer à Tylenol, puis aux Advil, puis oh, je dis jamais. Tu ne me verras jamais faire une pub à ça. Tu ne me verras jamais ma face avec Tylenol, à moins que je sorte de l'ordre. Puis encore là, je pense que même si je n'étais pas parmi l'ordre, je ne le ferais pas. Je veux dire, même si on me le proposait, là, je veux dire, même si on me donnerait 1 million, je serais vraiment très, très triste. Vraiment, ça me ferait mal au cœur. Très mal au cœur. Mais je peux pas.
Mais c'est ça. Ouais.
Tu sais, puis je sais pas. Oui, c'est éthique, éthique moralement. Tu sais, il y a tellement de choses qui font que je me sens pas bien non plus. Tu sais, je pense qu'on est des professionnels qui respectons. Oui, ce n'est pas tous les professionnels qui respectent à la lettre leur code de déonto, mais je crois en mon code de déonto. Si ça a été créé, c'est parce qu'il y a une raison derrière ça.
Tout à fait.
Moi, je suis pour ça.
On a tous le point levé dans les airs.
Ouais, c'est ça. Les trois, on a le point levé, ça paraît pas dans le podcast.
Mais ouais, non, c'est quand même un gros sujet.
Ouais, vraiment. Puis là, tantôt, tu sais, vous avez abordé justement les conséquences que ça peut avoir. Puis je pense que ça peut être intéressant pour les gens de l'entendre aussi. Parce que peut-être qu'ils nous entendent depuis tantôt, puis sont comme, ouais, c'est vraiment cool, les filles, mais dans le fond, c'est quoi qui est grave? Pourquoi c'est grave? Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence?
Oui, puis c'est vraiment une bonne question parce que, tu sais, même quand j'ai fait mes entrevues radio, il y a des animateurs qui m'ont challengé là-dessus puis qui m'ont dit, tu sais, Marie-Michelle, ben en fait, Madame Gazal.
Madame.
Comme, je ne suis pas une madame. Mais non, c'est ça. Il me disait, mettons, mais c'est quoi, tu sais, c'est quoi la différence entre une pub dans l'abribus, là, puis une pub d'influenceur? Puis honnêtement, tu sais, écoutez, peut-être que les gens qui sont pas sur les réseaux se rendent ou qui sont moins sur les réseaux se rendent pas nécessairement compte de l'ampleur de l'influence que ces personnes-là ont. Mais moi, je vais vous dire c'est quoi la différence entre une pub dans l'abribus puis une pub d'un créateur de contenu. Je veux dire, comme j'ai dit à la radio, moi, là, je suis le parfait exemple. je vois une pub de rouge à lèvres dans l'abribus. Je m'en sac dessus 2 secondes, je regarde même pas. Je vois une créatrice de contenu que j'aime vraiment, qui utilise un gloss, puis qui montre, puis je suis comme, « Ah, c'est donc bien hot, ce produit-là! Je vais l'essayer, je vais aller l'acheter. » Je veux dire, moi-même, je le sais, c'est quoi avoir des pubs sur des produits, puis d'être malaisée à voir ça, puis je me laisse influencer pour certains produits. Exact. C'est juste que quand c'est des rouges à lèvres, puis des gloss, puis des air fryers, c'est correct. Mais quand c'est des questions de santé, ça ne l'est pas. Puis je vous donne un exemple, OK? J'ai... Tu sais, je peux pas dire à chaque semaine, là, mais mettons une couple de fois par mois, j'ai des patients et patientes qui viennent dans l'heure de consultation, qui demandent une consultation avec moi, puis qui me demandent, mettons, une question sur un produit spécifique. Qui vont me dire « Ah, ce produit-là, j'en ai entendu parler, est-ce que je peux le prendre avec mes médicaments? » Puis c'est pas comme « Le recommandez-vous? » Il y en a que oui, là, mais la majorité du temps, c'est « Je peux-tu prendre ça avec mes médicaments? » C'est juste ça la question. Je suis comme « OK, mais attendez, je vais voir votre dossier. Pourquoi voulez-vous prendre ça? OK, d'où vous en avez entendu parler? Ah, OK, c'est une influenceuse. Ah, OK, vous avez vu une publicité de quelqu'un que vous connaissez. » Donc, vous pensez là, que ça ne mijote pas dans la tête des jeunes, tout ça, ou qu'ils sont comme « Ah, une autre pub! » Non, ça a une influence. Puis j'ai même des patients et des patientes qui, des fois, malgré que je leur dis « Hey, écoutez, moi, je pense pas que c'est une bonne idée. » Premièrement, souvent, je dis « Vous n'avez pas besoin. » On s'entend la majorité du temps. Soit je vais recommander autre chose ou je vais dire « Vous n'en avez pas besoin. » Ou des fois, quand je dis « Ah, ben c'est pas la meilleure chose pour votre thérapie médicamenteuse puis que je vais proposer une solution alternative. » Ben des fois, ils vont partir avec le produit même si je les ai découragés.
C'est fou,
donc,
hein?
Ceux qui viennent me dire que ça n'a pas d'impact, je suis désolée, aïe, aïe. Mais je vous garantis le contraire.
C'est tellement vrai, parce que la manière de consommer, que ça soit... Tu sais, un exemple aussi, la radio, là, ben il n'y a plus grand jeune qui écoute ça, la radio. Ils vont écouter les podcasts, c'est pas publicité. Tu n'es pas obligé d'entendre si le pont Jacques-Cartier a eu un accident dessus. Le trafic, ça ne t'intéresse pas. Mais tu sais, il y a une autre manière de consommer, puis on prend vraiment un virage virtuel, mais il faut que la consommation aussi, que les gens qui font la publicité se mettent à jour, là. Moi, faire une grosse bannière à côté du pont Jacques-Cartier, je le regarde pas non plus. Mais non. On est tellement, notre génération, sur nos cellulaires, sur les réseaux sociaux, puis après, avec les algorithmes, ils vont voir qu'est-ce qu'on a tendance à consommer, ils vont nous envoyer les publicités en conséquence. Fait que je pense qu'il y a vraiment aussi un problème au niveau de la consommation, comment les jeunes le consomment. T'sais, on dit toujours, faites attention à ce que vous consommez et comment vous le consommez. Puis l'exemple parfait que Marie vient de dire, c'est « j'aurais pas mieux dit là, non plus ».
Puis les compagnies, ils ont de l'argent. Là. T'sais, moi, c'est souvent, mon Big Pharma, moi, c'est la Big Culture des diètes. Là. Ils en ont en titi de l'argent. Puis pourquoi on les voit autant? Ils sont rendus avec, écoute, c'est du neuromarketing maintenant. Là, j'ai reçu quelqu'un qui est venu m'en parler. Je capotais là, à quel point je me trouve tellement naïve de ne pas savoir que c'est là. Mais c'est rendu qu'on pousse les études scientifiques pour aller voir comment le cerveau réagit face à tel ou tel stimuli, puis on l'utilise dans les publicités. Puis c'est comme ça que ça va chercher les gens, ça va chercher inconsciemment notre vulnérabilité. Pourquoi il y a autant de régimes, puis de diètes, puis de produits moyens maigrissants qui se vendent quand on sait très bien que de un, ça ne marche pas à long terme, puis de deux, c'est même dangereux pour la santé, puis ça fait même prendre du poids à long terme. Mais ils vendent pareil parce que sont bons là-dedans, puis même des faux professionnels de la santé, bien, il y en a qui engagent des faux vendeurs, des vendeurs qui vont être des faux professionnels de la santé, qui vont leur donner un titre bien glamour, puis que dans le fond, ils n'ont aucune formation, parce que j'en ai challengé, puis ils n'en ont pas de formation, mais ils sont là au bout du fil, au téléphone, là, puis ils ont l'air là, d'être vraiment connaisseurs, puis ils te poussent à l'achat, puis à la vente, puis ils en mettent de l'argent là-dedans, puis ça marche. Puis là, toi, t'es là à côté, puis tu dis « Hey, mais moi, j'ai ça à dire, puis tu sais, non, tu sais, fais pas ça, ça marche pas, puis le message se rend pas aussi bien. » Je pense qu'il y a, oui, la façon que les gens consomment, je pense que nous, on a avantage aussi à plus avoir d'éducation là-dessus, tout simplement. Je trouve qu'on est, tu sais, les professionnels de la santé, quand on est en promotion de la santé, on n'a aucune compétence là-dedans, aucune connaissance. Il faut le faire de nous-mêmes, là.
Vraiment, puis honnêtement, je sais pas, ben on a tout gradué il y a pas si longtemps que ça, on va dire. Mais j'espère que ça a évolué. Puis si ça n'a pas évolué, je trouve qu'il devrait au moins minimum avoir un cours sur la promotion de la santé, mais aussi sur la vulgarisation de la santé. Tu sais, peu importe que tu aies un compte Instagram ou que tu n'es pas, tu sais, je veux dire, que tu n'es pas que tu sois pas connu sur Instagram, si comme professionnel de la santé, tu vois quelque chose sur les réseaux sociaux qui, ça passe pas, n'hésite pas à t'exprimer. Mais la promotion de la santé, encore une fois, je le dis, c'est la base de tout. Je reste...
Totalement. Non, mais oui,
je suis une fille de première ligne. J'ai encore le poing fermé, on me voit pas, là, mais j'y crois éperdument. Mais il faut travailler là-dessus. Puis oui, il faudrait avoir de la formation dans notre cursus parce que ça juste... C'est la réalité actuelle en ce moment.
Comment ben, c'est ça.
Consomment? Puis comment on peut promouvoir la santé à l'air...
Que ce soit cool et sexy, oui, c'est ça. Oui. C'est
cool, mais sexy, mais il faut que ça soit super rapide, hein? On disait là, sur TikTok, là, j'avais fait mes recherches pour un autre podcast. Ça prend 10 secondes hein, pour sécréter de la dopamine, assez pour que la personne se dise « Ok, ben je vais continuer de scroller. » Puis, fait que finalement, ça devient addictif aussi, cette hormone-là, la dopamine. Mais ben, c'est un la même chose quand tu vois... Tu sais, c'est dur de créer du contenu éducatif. Ok, la couleur, les personnages, l'écriture. Ah, oui. Comment susciter l'intérêt pendant 8 excusez-moi l'anglicisme, mais slide, là, 8 carousels, 8 présentations, peu importe comment on le dit, faut le savoir. Puis moi, j'ai fait ça sur le tas, là, j'ai pas eu de formation, un peu comme toi, Marie, là, sur
ben oui.
On a appris vraiment sur le tas, on a vu quelles publications...
Et on essaye des affaires, ouais.
On essaye, c'est moins partagé, des fois, ça répond plus, ok, les gens aiment mieux... Fait que c'est dur, mais en même temps, si on prend pas la place sur les réseaux sociaux pour dénoncer tout ça... Qui va le faire?
C'est exactement. Ça. Puis, tu sais, je sais pas pour vous, nous, on a eu des cours de communication avec nos patients, tu sais. Mais mettons, communiquer en général, communiquer de l'information comme justement, mettons, c'est sûr, là, disons, en 2016, quand on a gradué, c'était peut-être moins l'ère des réseaux vraiment intenses, puis tout ça. Mais, tu sais, on n'a pas du tout abordé, mettons, la désinformation dans la population sur la santé. Nous, on n'a pas vraiment, en tout cas, pas de ce que je me rappelle, là, on n'a pas vraiment abordé ça. Puis pourtant, on en a eu des cours de com, tu sais, mais c'est vraiment des cours de com sur comment toi, ton entrevue, t'as fait avec ton patient, ta consultation, c'est comment ça se déroule.
Exact. Ouais. Ouais. Mon côté aussi, moi, ça fait encore plus longtemps, là, tu sais, j'ai gradué en 2012, mais mes cours étaient avant ça, puis les réseaux n'étaient pas ce qu'ils étaient aujourd'hui. Mm-hmm. Je serais curieuse de voir si ça s'est vraiment adapté, mais en même temps, on n'a tellement pas beaucoup de temps pour voir tellement de choses que... Tu sais, si tu veux aller en nutrition publique, en santé publique, ben là, tu vas peut-être avoir dans tes stages plus d'informations, mais sinon...
Ça devrait être dans chaque cursus de chaque professionnel de la santé, selon moi. Donc, Université de Montréal, vous pouvez m'appeler. Je suis libre.
Ça va nous faire plaisir d'enseigner ce cours.
Oui, non, c'est totalement de partager surtout aussi l'expérience, tu sais... on me dit souvent que je suis la seule infirmière sur les réseaux sociaux ou une des seules, où on n'est pas beaucoup, j'en connais pas vraiment d'autres. Mais je me dis... Puis au début, quand j'ai lancé ça, moi, je me suis fait lancer des roches, mais par des professionnels, des infirmières, qui me disent « t'as pas le droit, tu devrais pas faire ça, tu restes... » Hey, là, ça m'avait mis un stress. Le code de déontologie, je pense que je pourrais quasiment le réciter tellement nombre de fois que je l'ai lu. Je me dis, OK, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? OK, non, ça c'est correct, ça c'est correct. Je donne pas de conseils, je nomme pas de marque. Tu sais, c'est vraiment comme at large. Je fais juste résumer. Mais ça serait super important de l'avoir dans le cursus ou sinon d'avoir des conférenciers. Des conférenciers qui viennent puis qui parlent de l'impact des réseaux sociaux aussi, comme, tu sais, justement, comment gérer aussi. Parce que, OK, tu veux pas être sur les réseaux sociaux, promouvoir, OK, mais après, c'est parce que, comme professionnel de la santé, peut-être que tu vas en avoir. Si tu travailles à l'urgence et qu'il y a un gars qui a essayé de faire n'importe quoi qu'il a vu passer sur TikTok, ben comment tu vas gérer ça? Parce que, oui, faut que tu soignes le patient, mais si tu veux pas qu'il revienne, faut que tu l'éduques.
Exact.
C'est une partie super importante là-dedans.
Oui, totalement.
Fait que mon numéro de téléphone de l'Université de Montréal, c'est... l'Université de Montréal, mais c'est parce que j'ai gradué là, mais n'importe quelle autre université.
Ça va être n'importe où.
Maintenant, les cours se donnent à distance aussi, fait que,
ouais, c'est vrai.
Mieux. Mais pour vrai, oui, ça devrait faire partie du cuscus. Oh mon Dieu! La semaine a été longue. Du cursus. Puis tu vois, comparativement à toi, Marie, moi, j'ai pas eu de cours sur comment communiquer avec un patient.
Donc, ah, vous n'avez pas eu de cours de communication? Intéressant.
Si oui, en tout cas, je m'en rappelle pas.
Ouais.
Ça a complètement été effacé de ma mémoire, mais non, pas de cours sur la communication, comment communiquer avec le patient. Là.
Ouais. Moi, c'était mes cours préférés parce que on était dans les petits cubicules, puis chacun notre tour, les étudiants, il y en a un qui jouait le pharmacien, il y en a un qui jouait le patient. Puis là, le patient, des fois, il était chien. Là. Puis là, il essayait de te faire des poignes, puis c'était comme le patient qui poigne les nerfs, le patient qui n'est pas observant à sa médication, qui les oublie tout le temps. Puis c'était comme, c'était vraiment intéressant parce que ça te fait pratiquer tes techniques de communication, tu sais, tes reflets, tes reformulations, tes questions ouvertes. Puis honnêtement, moi, ça m'aide dans ma pratique là, de me rappeler de ces concepts-là, c'est niaiseux, mais j'ai vraiment, moi, c'était mes gros préf, j'aimais vraiment ça.
Ben,
c'est peut-être pour ça que je suis rendue dans la vulgarisation aussi. C'était mes cours préférés.
Le mot du poids, on s'en balance. Ça, c'est le slogan de mes nouveaux t-shirts qui sont maintenant disponibles pour commande sur mon site internet saranutritionniste.com. L'objectif de ça, c'est vraiment de m'aider à soutenir le podcast. T'aimes ce que t'entends, t'as le goût que ça continue, puis tu veux m'encourager, ça, c'est vraiment une belle façon de le faire. Puis pour moi, c'est aussi une façon de pousser le message encore plus loin que juste dans tes oreilles. Je veux que les gens le voient. Je veux qu'en marchant dans la rue, on puisse regarder ton T-shirt ou même ton tote bag puis te dire « Ah ouais, le mot du poids, on s'en balance. » C'est donc bien intéressant. Si t'as envie de participer... à cette promotion-là, finalement, avec moi. Je t'invite sur mon site Internet. Merci! Ce que tu entends dans les épisodes, ça te fait réfléchir puis progresser sur ta relation avec la nourriture, mais tu n'es pas tout à fait prête à aller en consultation one-on-one encore. Bien, j'ai créé un bundle spécial pour toi. Le premier est déjà sorti, puis il y en a d'autres qui s'en viennent. Tu vas retrouver mes outils, en fait, principaux qui sont les plus populaires que j'utilise lors de ma première rencontre quand je fais mon évaluation nutritionnelle puis que je passe à l'étape de l'enseignement. Donc, c'est mon outil que tu vas avoir en version électronique accompagné d'une petite vidéo de moi, de ma petite face, qui t'explique ce bout-là d'enseignement, finalement. Donc, le premier bundle est déjà disponible sur mon site Internet, saranormandin-nutritionniste.com. Je te dirais que c'est vraiment... les favoris, ce que je répète le plus souvent avec mes images à moi qu'il y a dans ma tête. Tu vas rentrer dans mon univers puis ça va t'aider à comprendre surtout comment ton corps fonctionne. Donc, on revient vraiment à la base de ce que tu entends dans les podcasts, mais regroupé au même endroit en une mémoire. Puis si tu es super visuel, tu peux acheter les outils aussi imprimés que je vais t'envoyer par la poste que tu pourras avoir en une mémoire. Donc, rendez-vous sur mon site. Merci de ton écoute. Tu veux en savoir plus? Tu veux m'entendre encore plus jaser du mot du poids sur différentes plateformes? Je t'invite à me rejoindre sur mon Instagram et mon Facebook, Sarah Normandin Nutritionniste, ou à visiter mon site Internet, saranormandinnutritionniste.com. Je suis aussi nouvellement sur TikTok, donc tu peux venir voir ma face faire plein de niaiseries. Tu as des questions, des commentaires, des suggestions, je suis super ouverte. J'aime ça que tu viennes me parler de tes impressions. Gêne-toi pas de venir m'écrire, ça va me faire un grand plaisir.